RCF.
Et ce sera à 8h30 ce prochain journal de Radio Vatican, mais à 18h10, c'est le 18-19 en région et c'est Alexis Claudretz.
Qui est très heureux avec toutes les équipes de RCF Cœur de Champagne, RCF France-Ardennes, de vous retrouver pour un nouveau magazine régional ce mardi soir, où dans quelques instants nous serons avec Jean-François Boulanger, notre chroniqueur qui est en train de s'installer en studio pour un nouvel épisode de Mémoire Chrétienne. On évoquera le pèlerinage à Lourdes, partie 1. Il nous a promis plusieurs numéros, ça sera l'occasion de lui demander combien exactement. Un maire qui vous parle, qui nous parle, René Malherbe et l'édile de La Romagne dans le département des Ardennes. Il sera au micro de Jean-Pierre Benoît avant le journal régional de 18h30. En deuxième partie d'émission, on présentera une exposition dont on a déjà parlé dans ce magazine, l'exposition à Épernay, juin sans juin, organisée au mois de décembre et au mois de novembre aussi, puisque nous sommes encore en novembre. Voilà, c'est original, mais ce sera l'occasion de revenir sur cet événement. Des invités qui nous rejoindront d'une minute à l'autre, Pierre Possémé, délégué régional de la Fondation du patrimoine en Champagne-Ardennes, et Bernard Deloriston, chargé de mission pour cette même fondation, seront dans nos studios avec Jean-Pierre Benoît, qui lui aussi ne va pas tarder à nous rejoindre, on n'en doute pas. Et Anne-Marie Sonnet nous parlera de la CIDI, la Solidarité Internationale pour le Développement et l'Investissement. C'est en lien avec le CCFD Terre Solidaire. 18h12, on fait le sommaire le plus rapidement possible parce que le menu est chargé. On va essayer de prendre l'apéritif avec Jean-François Boulanger. On retrouve notre chronique du mardi. Mémoire chrétienne avec Jean-François Boulanger, bonjour.
Bonjour.
Et aujourd'hui, on ouvre une nouvelle série consacrée à Lourdes. Il y aura au moins 4 épisodes, peut-être plus, Jean-François, dans cette série d'émissions consacrées à la mémoire des pèlerinages. Aujourd'hui, focus sur Lourdes. Pourquoi ce choix? Bien qu'on ait certainement déjà des idées qui nous viennent en tête.
Voilà, il y a une idée qui vous vient immédiatement en tête, c'est que Lourdes, c'est incontestablement le grand pèlerinage en France, le plus important. Et il est né donc dans la deuxième moitié du 19e siècle, on verra de quelle façon. Mais il a déjà une histoire en fait bien longue qui nous renvoie à plusieurs strates mémorielles dont certaines ne sont pas forcément très visibles aujourd'hui. Parce qu'il est la mémoire d'une série d'apparitions, ça tout le monde le sait, mais qui ne prennent vraiment leur relief que de l'existence sur place dans la région de Lourdes d'une religion populaire locale qui a déjà en elle-même sa propre mémoire. Et donc pour la comprendre, il faudra d'abord nous pencher sur le contexte dans lequel les apparitions ont eu lieu.
Si vous le voulez bien, Jean-François, avant, je vais vous demander de nous présenter Lourdes. Comment se présentait cette ville dans les années 1850?
Alors, Lourdes, en 1858, au moment des apparitions, c'est une bourgade qui est très éloignée de tout. Le Second Empire est le moment où, en France, le chemin de fer se développe. Et le chemin de fer est incontestablement un facteur de modernité et de mobilité. Mobilité des hommes, des idées, des marchandises. Or, le chemin de fer n'atteint pas Lourdes à l'époque. Hein. Et pour se rendre dans la région, il fallait, tenez-vous bien, 32 heures pour aller en diligence de Bordeaux à Bagnères-de-Bigorre, en comptant les correspondances. Hein. Donc vous voyez, c'est un isolement important. Je ne parle même pas du temps qu'il fallait pour venir de Paris, qui a bien sûr des conséquences économiques.
Comme par exemple?
La ville, en fait, n'a pas changé depuis la première moitié du 19e siècle. À l'époque de la Révolution, lorsque se créent les départements, elle postule pour devenir sous-préfecture du département des Hautes-Pyrénées, mais cette fonction administrative, avec tout ce que ça implique, est revenue à une ville voisine et rivale, Argelès-Gazost. Le développement du chemin de fer, donc, avait facilité ailleurs le développement de toute une série de stations thermales dans les Pyrénées. C'est la grande époque du thermalisme, très prisée à l'époque par les élites, qui viennent donc faire une cure thermale qui, en fait, est l'occasion de toute une vie mondaine qui se développe autour du casino. Malheureusement, les eaux de Lourdes, c'est un peu un paradoxe, ne conviennent pas à l'installation d'une source thermale, contrairement par exemple à Cauterets, à Bagnères-de-Bigorre, à Luchon et j'en oublie.
On peut supposer que cette stagnation économique a des conséquences aussi sur la démographie de la ville.
Effectivement, en 1856, la ville ne compte que 4000 habitants, dont 120 notables qui sont des professions libérales, quelques rentiers qui ont des propriétés agricoles, des médecins, autant de petits commerçants. Le reste de la population, donc l'immense majorité, est composée de bergers, de paysans, de forestiers, de carriers qui exploitent le marbre, la pierre et l'ardoise, et à qui d'ailleurs leurs accidents et leurs blessures voudront d'entrer dans les premiers récits miraculeux. Nous en reparlerons, bien sûr.
C'est de cette population pauvre que fait partie Bernadette Soubirou, d'ailleurs.
En effet, parce que la famille de Bernadette se trouve tout en bas de la hiérarchie sociale dans la ville de Lourdes. Le chef de famille est un journalier. Un journalier, c'est un ouvrier agricole qui est embauché à la journée, ce qui veut dire qu'il ne travaille pas forcément tout le temps et qu'il a des revenus qui sont la conséquence de ce chômage partiel. Donc ces journaliers essaient de se subsister dans une économie rurale qui est en train de s'effondrer sous la pression démographique, alors même que le code forestier restreint l'accès aux ressources complémentaires que l'on trouve dans les bois, notamment pour se chauffer. Ça avait d'ailleurs entraîné une forte contestation dans la région, qu'on avait appelée la guerre des demoiselles, parce que les paysans qui s'attaquaient aux gardes forestiers qui les empêchaient d'aller dans les bois se vêtaient d'une chemise blanche et donc on disait que c'était des demoiselles. Et la crise qui a sévi entre 1853 et 1857 avait fait grimper le prix du blé, accru les maux liés à la malnutrition, des goitres par exemple. Une insuffisance respiratoire, Bernadette par exemple, souffrait de l'asthme et était quasiment tuberculeuse. La famille Soubirou par ailleurs est en mobilité fortement descendante. Auparavant, elle louait un moulin, mais elle avait dû abandonner ce moulin parce qu'elle avait quasiment fait faillite. Donc elle logeait dans un logement de fortune, c'est l'ancienne prison de Lourdes. Et la mère, Louise Castera Soubirou, a eu 9 enfants, dont 4 meurent en bas âge. Vous voyez donc un peu la situation. 4 enfants qui meurent en bas âge sur 9. 1 meurt à l'âge de 10 ans et 4 parviendront à l'âge adulte. Alors à l'époque, Bernadette est l'aînée, elle a 14 ans au moment des apparitions. Elle a été frappée par le choléra en 1855. Elle souffre d'un mauvais état général puisqu'elle mesure 1,40 m et paraît 12 ans. J'ajouterais qu'au moment de l'apparition, elle avait travaillé comme bergère dans un village voisin et elle vient de rentrer justement à Lourdes.
Voilà pour le contexte économique et social, Jean-François Boulanger. Peut-être un mot également sur le contexte culturel cette fois.
Oui, alors effectivement c'est très important parce que culturellement nous sommes dans une zone où la culture et la religiosité populaire sont très fortes. Et ça se traduit par l'existence de nombreux sanctuaires qui se trouvent souvent dans la montagne, dans des coins un peu reculés, dans la forêt, près de fontaines. Ils sont souvent dédiés à la Vierge, on en compte une 40 dans les Pyrénées. Et ceci dans une perspective qui combine d'anciennes croyances, par exemple à des fées, on les appelle les petites dames blanches, et donc des pratiques chrétiennes. J'ajouterais que dans les Pyrénées également, les villageois célèbrent la Saint-Jean, donc le solstice d'été, en se roulant dans la rosée et en adorant des fontaines locales, toujours, en dépit des réticences du clergé. Donc des traditions qui vont trouver un écho particulier aux pratiques de lavage et de baignade qui sont transmises dans le cadre du message reçu par Bernadette et qui se traduiront donc par le bain que prendront les malades le jour venu.
D'ailleurs, puisque l'on évoque Bernadette, quelle est la culture religieuse
de Bernadette? Oh, elle est très faible. Très faible en raison notamment de l'enfance qu'a vécue Bernadette parce que sa mère attendait un autre enfant alors qu'elle avait 2 ans. Donc elle a été mise en nourrice très tôt dans un village à côté de Lourdes. Et donc elle a vécu largement en dehors de sa famille. Elle n'ira pas à l'école, donc elle ne sait ni lire ni écrire. Et selon donc le biographe, si je puis dire, de Notre-Dame de Lourdes, Henri Lasserre, elle était tout à fait étrangère à la langue française et ne connaissait que son pauvre patois pyrénéen, c'est le gascon. Elle suit très épisodiquement le catéchisme. Je cite toujours, « En cela, son ignorance était extrême. Notre Père, je vous salue, je crois en Dieu, gloire du Père, récité au courant du chapelet, constitué tout son savoir religieux. » Et inutile de dire qu'elle n'a pas fait sa première communion. Et justement, il était rentré à Lourdes depuis 2 semaines pour se préparer à cette première communion et aller enfin au catéchisme.
Et c'est alors que se produit la première apparition.
Alors effectivement, la première a lieu donc le 11 février 1858. Bernadette était partie chercher du bois pour sa mère, en compagnie de sa cadette, Toinette, et d'une amie, Jeanne Abadie. Et elle se dirige vers un terrain communal, où elle pouvait donc prendre du bois sans problème, qui se trouvait au bord de la rivière du Gave. Et là se trouve une zone sableuse qu'on appelle Massabielle, du nom d'un rocher situé à côté, et c'est là qu'il y avait la fameuse grotte. Et pendant que les 2 autres jeunes filles pataugent dans l'eau pour ramasser le bois flottant, elle était restée en arrière, un peu essoufflée, parce que je vous l'ai dit, elle était asthmatique, etc. Et surmontant sa peur du froid, on est au mois de février, et décide à rattraper ses compagnes. Elle avait fini par s'asseoir près de la grotte pour ôter ses bas, vêtements qu'elle était la seule à porter. On est très pauvre, hein, à cause justement de son asthme. Et alors, elle entend comme un vent se lever, ne voit rien bouger autour d'elle. L'instant d'après, elle voit apparaître dans une niche de la grotte une silhouette de petite taille, vêtue de blanc, belle, souriant et semblant lui faire signe, ne prononçant aucune parole. Seule Bernadette a vu ou senti quelque chose, et il en sera de même pour toutes les apparitions suivantes. Il y en aura 18. Et Bernadette va raconter à sa sœur ce qui lui est arrivé, en lui demandant de se taire. Mais Toinette va raconter tout ça à sa mère, et les deux sœurs reçoivent à ce moment une correction, et on interdit à Bernadette de retourner vers la grotte. Pourtant, 3 jours plus tard, elle retourne à la grotte, avec une douzaine de compagnes de son âge. Il y aura au total 18 apparitions, et à chaque fois plus de monde pour y assister, mais Bernadette est la seule à voir l'apparition, 7000 personnes le 9 mars. D'autres jeunes filles à sa suite affirmeront également avoir vu, je cite, « la dame », mais seule Bernadette verra ses visions validées.
Eh bien, merci Jean-François Boulanger de nous avoir emmenés à Lourdes pour une première fois. Il y aura, on l'a bien compris, pardon Jean-François, d'autres numéros avec vous. C'est à retrouver dans la rubrique programme sur RCF Reims-Ardennes en passant par le site www.rcf.fr.
Le 18-19 sur RCF.
Et nous, avec un petit peu de retard, 18h22, on part à la Romagne, dans les Ardennes, avec René Malherbe, le maire de la commune. Il est au téléphone avec Jean-Pierre, que l'on retrouve enfin à nos côtés ce soir.
René Malherbe, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Merci, on voit que vous êtes plein de dynamisme à la Romagne. C'est l'occasion pour nous de vous demander de nous présenter un petit peu votre commune, la Romagne, combien d'habitants, et puis nous présenter un petit peu ce que vous faites, et puis depuis combien de temps vous êtes maire. D'abord, le nombre d'habitants, combien y a d'habitants à la Romagne?
Alors, à la Romagne, il y a 132 habitants au dernier recensement, mais il y en aura, à mon avis, 6 ou 7 de plus au prochain.
Ah, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Ah oui, il y a des familles qui sont arrivées avec pas mal d'enfants.
Ça, c'est bien. Alors, justement, René Malherbe, depuis combien de temps vous êtes maire à la Romagne?
Depuis 1995.
Alors, ça veut dire que, bon, vous connaissez tout le monde. Vous aviez commencé comme conseiller municipal, peut-être, adjoint au maire?
Oui, alors j'ai démarré conseiller municipal en 1977. J'ai été aussi sapeur-pompier au corps de première intervention à l'époque où il y en avait. Et j'ai terminé, donc là c'était 70 à 95, et j'ai terminé comme chef de corps.
Très bien. Et alors, vous avez toujours été motivé pour être maire? C'était un peu, comme on dit aujourd'hui, dans votre ADN? Oui, c'est le rendre service, quoi.
Oui, voilà. J'aime le contact. Donc, alors, être maire, c'est vrai que ça permet de côtoyer les citoyens un peu différemment.
Est-ce qu'on peut définir un petit peu votre commune aujourd'hui? Les habitants, des retraités, encore des agriculteurs? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent un peu de la ville, qui s'installent? Quels sont ces habitants de la Romagne aujourd'hui en 2023?
Les 3/4 des habitants sont des retraités. Et il y a des cultivateurs, il y en a de moins en moins, il en reste 3. Et il y a des personnes de la ville qui viennent s'installer à la Romagne. Et à la Romagne, il n'y a pas de maison à vendre. Enfin, il y en a une maison à vendre, c'est tout.
Ça veut dire peut-être que certains maires qu'on a eus sur notre antenne depuis plusieurs semaines, là, ils disent qu'il y a peut-être eu un effet Covid. Vous n'êtes quand même pas très loin, il y a des villes pas très loin, et ils préfèrent être à la campagne.
Je ne pense pas, moi, que ce soit l'effet Covid qui fait ça. Ça a toujours été, il y a toujours eu des maisons à vendre, et puis donc même des maisons neuves qui ont été reconstruites.
Souvent le maire, on l'interroge, il est souvent sollicité. Il y en a même qui jettent l'éponge, comme on dit, parce qu'il y a un certain nombre de responsabilités, il y a beaucoup même de responsabilités.
Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de responsabilités, on fait face à certaines situations. Par exemple, aller constater des décès, là je suis un peu négatif, mais constater des décès, et ça m'est arrivé plusieurs fois, ou même des suicides.
Ça c'est le moins, ouais, c'est tragique, hein.
C'est le point noir, ça. Mais enfin, sinon les gens du village, la Romagne est animée quand même par 3 associations. Il y a la Romadimation, il y a la Société de chasse, et l'Amicale des Anciens, que moi j'ai l'honneur de présider.
Ça donne beaucoup de vie, hein, au village.
Ah oui, on organise des lotos, belotes, des boules en bois, la fête patronale, le dimanche qui précède le 15 août. On peut déguster aussi des moules frites ou du Beaujolais nouveau, là.
Ah ben ça,
alors,
oui.
Et alors, il y a aussi de la mi-décembre à l'Épiphanie, la Romagne s'illumine. Il y a des sujets qui sont posés, ou des sujets lumineux au poteau électrique. Il y a des crèches, tout ça, ça scintille de mille feux. Et puis sur le terrain de pétanque, on accueille avec des gaufres et du vin chaud les personnes qui le souhaitent.
Oh ben écoutez, celles et ceux qui nous écoutent, même de Reims et tout ça, ils disent, bon, où est-ce que c'est la Romagne? On va y aller, hein, manger les gaufres et tout ça. Ça, c'est une très, très, très bonne initiative.
Depuis l'an 2000.
René Malherbe, le maire, il est toujours quand même, malgré les intercommunalités, malgré les groupements de communes, il est quand même un peu le patron quand même chez lui. Il est quand même, on respecte le maire, c'est quelqu'un qu'on voit, qu'on l'attrape d'ailleurs parfois.
Oui, non mais bien sûr, le maire est toujours sur le terrain. On nous demande aussi quelquefois de faire des travaux, donc ces travaux-là, on les réalise avec l'aide de subventions. Hein.
Bien entendu. Justement, pendant qu'on y est, pendant que vous êtes là, on aura l'occasion de vous retrouver certainement dans d'autres émissions. Mais est-ce qu'il y a des projets qui sont terminés ou des projets en cours ou des projets à venir à la Romagne? Vous allez peut-être faire quelques aménagements, peut-être une dans la route ou dans les espaces publics, dans l'éclairage, je ne sais pas.
Alors, l'éclairage, oui, on prévoit de passer au LED. Pour ce qui concerne la voirie et tout ça, je ne dis pas qu'on est au top, mais on a déjà fait beaucoup, beaucoup de choses. Et là, on a acheté un terrain et on prévoit d'y construire un bâtiment communal pour pouvoir ranger justement tous les sujets, toutes les tables et les bancs que se servent la...
Une sorte d'hangar pour pouvoir ranger les affaires et les ressortir quand il faut.
Voilà. Parce que pour l'instant, elles sont stockées dans une écurie d'un particulier. Alors, ça ne peut pas durer, quoi.
Donc ça, ça fait partie des priorités. Vous en avez d'autres, René Malherbe?
Alors, on a le projet aussi de changer les fenêtres de la mairie et puis de l'ancien préau, parce que tout ça, ça date des années 50. Alors, ça commence à vieillir sérieusement.
Ça méritait quand même, comme on dit aujourd'hui, un petit relooking. Hein. On n'aime pas termes anglais, mais enfin, voilà. Hein.
Un remplacement. Même.
Alors, justement, il y a beaucoup de maires qui disent c'est quand même assez lourd quand on a une activité professionnelle. Vous êtes peut-être, bien sûr, retraité, René Malherbe, je ne sais pas trop, mais c'est vrai que pour un maire, conjuguer la vie familiale, la vie professionnelle, le fait d'être maire, ce n'est pas toujours évident.
Non, c'est vrai qu'au début de mon mandat, il fallait donc conjuguer avec l'activité de chef d'entreprise que j'étais et la responsabilité de maire. Ça n'a pas été facile et ça se ressentait d'ailleurs sérieusement dans les résultats des élections successives. C'est-à-dire que le conseiller municipal que j'étais n'était pas du tout coté. Hein. Et ça a failli plusieurs fois que je ne sois pas réélu.
Ah bon? Et mais après, on a appris à vous connaître quand vous aviez un petit peu plus de liberté. René Malherbe s'y est mis. Et là, alors tout le monde a voté pour vous. Et il était quand même au point.
Oui, non, mais c'est vrai que depuis 2009, la cote a remonté sérieusement.
Ah, mais tant mieux alors. Oui. Tant mieux pour vous, monsieur Malherbe. On a vous applaudi à deux mains. Et alors, pour conclure, on aura l'occasion de vous retrouver. Hein, parce que tous les maires, vous savez, on en a 240 au cours de l'année. On va être obligé de refaire plus un maire deux fois dans l'année, peut-être. Est-ce que vous êtes quand même un maire heureux, comme on dit? On pose la question à chaque maire aujourd'hui, enfin cette année.
Alors, le maire, c'est vrai que, quel qu'il soit, par moment, a envie, comme vous avez dit tout à l'heure, là, de poser le tablier. Mais l'entrain que suscite cette vocation reprend le dessus. Et c'est tant mieux. C'est-à-dire qu'un maire, il faut qu'il sache écouter et savoir aussi se taire.
À la fois être affable, proche des gens, mais en même temps discret.
Oui, ah ben, très très discret, oui, bien sûr.
En tout cas, René Malherbe, on a été très très heureux de faire votre connaissance sur l'antenne de RCF. Ce n'est qu'un début, on aura l'occasion de vous retrouver. Vous voyez, c'est très simple. Beaucoup de maires disent « Ouais, mais c'est compliqué, la radio et tout. » Voyez comme c'est simple. Et on vous accueille avec plaisir. Et puis on dit bien fort aux auditrices et aux auditeurs de RCF « Vive la Romagne !» Et puis pour tous les temps forts, les kermesses, si vous avez des choses, des illuminations, ouais, dites, on va dire aux gens « Allez, venez faire un tour à la Romagne !» Vous serez bien accueilli par René Malherbe. On aura l'occasion d'en reparler. Merci, pas monsieur le maire. Merci beaucoup, monsieur le maire. À bientôt. Au revoir.
Merci à vous. Au revoir.
Vous êtes formidable, Jean-Pierre. On vous passe la parole en retard. Vous nous la rendez à l'heure pour le journal régional à 18h30. Tout est calculé. Une horloge dans le ventre. C'est l'heure du journal. Mais oui, on se regarde avec Fabrice en régie, mais c'est un fait, on est pile à l'heure du journal. 18h30, les titres de ce mardi 28 novembre 2023. Le département de l'Aube recrute une vingtaine d'assistants familiaux. Une réunion d'information sera proposée ce vendredi au centre sportif de l'Aube. Explication, retour sur le dîner annuel de la mission Coteau, Maison et Cave de Champagne. Les fonds récoltés cette année sont au profit de la rénovation de la basilique Saint-Remi de Reims.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Ce vendredi 1er décembre, le département de l'Aube organise une réunion d'information sur le métier d'assistant familial. Christopher.
Être assistant familial, c'est accueillir à son domicile, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, un ou des enfants âgés de 0 à 21 ans, ayant connu des difficultés familiales et qui sont confiés au département au titre de la protection de l'enfance. C'est leur offrir un cadre stable, sécurisant et chaleureux, tout en maintenant des liens avec leur famille d'origine lorsque c'est possible. Chaque année, le département recrute une vingtaine d'assistants familiaux. Vous souhaitez aider des enfants à grandir et à s'épanouir. Vous faites preuve de qualité humaine et relationnelle d'une solide motivation. Vous êtes prêt à vous investir dans une formation professionnalisante et à travailler en équipe, ou encore vous souhaitez vous engager, vous, votre conjoint et vos propres enfants, dans un accueil familial. Eh bien, inscrivez-vous sans tarder pour tout savoir sur la profession, à savoir les missions, statuts, droits, marches à suivre, modalités d'exercice ou encore conditions d'obtention de l'agrément. La réunion se tiendra ce vendredi 1er décembre 14h30 au centre sportif de l'Aube. Inscription indispensable. Pour plus d'informations, 03 25 42 48 63.
Merci Christopher Fausten. On rappelle le numéro, hein, si vous n'avez pas eu le temps de noter, le 03 25 42 48 63. Les Frigos Solidaires, association parisienne, développent depuis 2017 dans toute la France leur concept de frigo accessible à tous. Installé dans un premier temps à Saint-Dizier au sein de Green's Café, le Frigo Solidaire a déménagé au sein de l'association L'Accueil au 636 avenue de la République à Saint-Dizier, toujours. Depuis 2015, le forum Kiffe ta santé, organisé par le CCAS de Saint-Dizier, a pour vocation de sensibiliser les jeunes de 16 à 25 ans à la problématique de la santé en leur proposant des rencontres avec une multitude de professionnels de la santé, allant du paramédical au social, en un seul et même endroit. Ce forum revient pour une nouvelle édition. Ça sera d'ici quelques jours à Fun Avenue, 19 rue des Roises à Bétancourt-la-Ferré, de 13h30 à 18h. Renseignez-vous auprès donc du forum Kiffe ta santé sur internet pour avoir toutes les dates. C'était il y a 8 jours. La mission Coteau, Maison et Cave de Champagne organisait au caveau Castelnau son traditionnel dîner annuel en faveur de la mission UNESCO, un repas qui a permis de récolter des fonds auprès des plus de 500 convives présents, 36 000 euros collectés pour rénover la basilique Saint-Remi de Reims. Séverine Couvreur, présidente de la mission Coteau, Maison et Cave de Champagne.
C'est une valeur symbolique pour engager l'ensemble du réseau champenois, mais aussi l'ensemble du réseau français, à soutenir la rénovation de ce bâtiment qui fait sens pour nous, mais qui fait sens pour le monde. Là, c'est un peu la petite goutte d'eau du colibri qui aide finalement à bâtir quelque chose de beaucoup plus grand et qui nous dépasse. Et donc je trouve ça assez fabuleux, et on est très heureux que ça soit fait lors de cette soirée, ici à Reims, et en la présence de tous ces élus, et aussi de Monseigneur de Moulins-Beaufort qui est là, et qui en fait représente aussi, pas que l'Église, c'est comme l'a dit Pierre-Emmanuel, il représente aussi des valeurs d'ancrage, cette histoire qui est la nôtre, et l'Église fait partie de notre histoire, qu'on soit croyant ou qu'on soit pas croyant.
Et pour les gens comme Fabrice qui préfèrent qu'on francise des mots, on peut parler de mission UNESCO si vous voulez. Le coût total des travaux est estimé à 60 millions d'euros. C'est Franck Leroy, président de la région Grand Est et parrain du dîner 2023, qui a décidé que cette année, les fonds iraient au profit de la rénovation de la basilique Saint-Remi de Reims. Séverine Couvreur.
Et bien justement, c'est la connexion entre les inscriptions. C'est cette capacité des Champenois à se dire, mais en fait, nous avons des monuments, nous avons des monuments qui incarnent en fait ces valeurs de l'UNESCO, ces valeurs internationales en fait, qui sont nées quand même en France. Et un bâtiment comme la Basilique Saint-Remi, moi je suis très contente que Franck Leroy l'ait choisi, parce que en fait, elle nous permet de dire, ici vous êtes réunis ce soir pour les coteaux, maisons et caves de Champagne, mais en fait les coteaux, maisons et caves de Champagne acceptent de rechercher des fonds pour un autre bien, parce que tous ces biens, comme je vous le disais, sont connectés et font la valeur de ce territoire et font la fierté des habitants. C'est vraiment intéressant de pouvoir montrer qu'effectivement c'est bien ma Champagne au patrimoine mondial, c'est cet ensemble. Le vote des ambassadeurs de l'UNESCO, c'est formidable parce qu'ils nous ont donné 4 inscriptions. Donc c'est 4 fois la reconnaissance que ici nous avons des choses à dire à l'humanité tout entière. Je crois qu'il y a beaucoup de Champenois qui se rendent pas compte de cette dimension. Parce que c'est souvent, ah ben c'est ma basilique, ou c'est ma cathédrale, ou c'est ma Champagne. Certes, au départ, c'est la nôtre et on en est garant et on doit la protéger, la faire passer aux générations futures. Mais c'est aussi, finalement, cette Champagne, elle a une valeur pour le monde entier.
Des propos recueillis au micro de RCF France-Ardenne en 2025, la mission UNESCO fêtera ses 10 ans. De nombreuses actions seront organisées pour cette année anniversaire, on en parlera dès 2024. Suite au désaccord rencontré cet été entre la commune de Gueux et l'association des amis du circuit de Gueux, la commune lance une consultation en vue de trouver un partenaire autorisé à occuper les terres du circuit à titre précaire et révocable. L'objectif est de pérenniser ce site patrimonial et historique et d'apaiser les tensions. Consultation ouverte aux associations, entreprises ou groupements d'entreprises. Les offres devront être remises par voie dématérialisée pour le vendredi 22 décembre 2023 à 17h au plus tard sur la plateforme des marchés publics www.xmarche.fr. www.xmarche.fr. Sport, basket, demi-finale de Leaders Cup Pro B ce soir pour le Champagne Basket qui reçoit Lille dans le match aller. Coup d'envoi à 20h, c'est à la Reims Arena. La météo ce soir nous est présentée par Manon Bréval avec son joli pull à paillettes. Bonsoir Manon, quel temps dans le ciel en Champagne-Ardenne pour demain ?
Bonsoir Alexis, effectivement, ce soir je suis là avec mon pull à paillettes et je brille. Cependant, pas comme la météo de demain. Mercredi matin, les tendances seront diverses sur votre territoire. Quelques rayons de soleil réussiront à percer les nuages à Troyes et Épernay. Pour Chalon, Vitry-le-François, Saint-Dizier et Vitry-le-Croisé, le ciel ne se dégagera pas et restera très nuageux. De la brume à Nogent-sur-Seine et Langres, en remontant dans les Ardennes, de la pluie à Rethel et même quelques flocons à Charleville-Mézières. Les températures de cette matinée descendront au minimum à 0 degré et monteront au maximum à 5 degrés. L'après-midi, on retrouvera pour les Ardennes et la Marne des nuages tumultueux. Dans l'Aube et la Haute-Marne, un ciel voilé toute l'après-midi est annoncé. Vos thermomètres afficheront en moyenne 6 degrés. Vous l'avez bien compris, ceux qui n'avaient pas encore sorti les vêtements d'hiver n'y échapperont pas cette fois-ci. Demain, nous mettons à l'honneur les Saturnins.
Merci Manon, une bonne fête d'avance à tous les Saturnins. Ainsi se referme ce journal, le 18-19 en Champagne-Ardenne continue.
Le 18-19.
Tous les jours.
Sur RCF.
À Reims.
Chalon. Charleville-Mézières.
Et on part à Épernay. L'office de tourisme accueille depuis le mercredi 8 novembre l'exposition présentée par les élèves de 4 collèges de l'agglomération d'Épernay dans le cadre d'une opération contre les addictions menée par la commission intercommunale de sécurité et de la prévention de la délinquance de l'agglomération d'Épernay et le CAST. Cette exposition, juin sans juin, est de retour. Et le retour des actions présentées sous forme d'affiches et de masques, précision avec le docteur Gilles Dulion, président de la commission intercommunale de sécurité et de la prévention de la délinquance de l'agglomération d'Épernay.
Gilles Dulion, bonjour.
Et bonjour monsieur.
Vous êtes le président du CISPD, vous allez nous expliquer ce que veut dire cet acronyme.
Cet acronyme signifie le Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance. C'est un conseil donc, qui a été mis en place donc, au niveau de l'agglomération d'Épernay.
Dans le cadre de cette commission, vous êtes en train d'organiser actuellement une exposition à l'Office du tourisme d'Épernay Pays de Champagne, une exposition qui s'intitule « Juin sans juin ». Alors, comme on est dans le mois sans tabac, est-ce que ça a un lien ?
Non, du tout, c'est une coïncidence, si vous voulez, puisque effectivement, donc, cette exposition « Juin sans juin », cette action que nous avons menée donc pendant tout le mois de juin est indépendante effectivement de ce mois sans tabac, si vous voulez. Mais puisqu'on est dans les addictions, on voit bien que cette manifestation qui a été co-organisée donc par l'agglomération et le CAST d'Épernay, CAST signifiant Centre d'accueil et de soins des toxicomanes, s'inscrit plus largement donc dans le cadre des addictions, je l'ai dit. Et le tabac en est une. Au départ, si vous voulez bien, notre souci, c'était d'informer, de sensibiliser, donc dans cette action menée, les jeunes, soit les problèmes des conduites addictives, bien sûr. Et la porte d'entrée de cette action a été conjointement menée avec le CAST sur les substances qui sont consommées par les jeunes. Et ce concept a évolué vers toutes les formes d'addiction. Et nous avons associé donc à cette manifestation différents partenaires que je vous citerai peut-être si nous revenons là-dessus.
Vous avez associé à cette opération Juin sans Juin des collégiens.
C'est une action qui se projette vers les collèges de Jean Monnet à Épernay, Saint-Exupéry à Lise, sur Vertu, donc le collège Eustache Deschamps, et également donc au niveau d'Épernay, donc Notre-Dame Saint-Victor. Voilà.
Alors ces collégiens, ils avaient quel objet à fabriquer ?
Donc ils se sont beaucoup investis. Et entre autres sur ces masques que l'on peut admirer, ces masques qui ont été exécutés, peints dans le cadre d'un atelier d'art-thérapie de Madame Van der Weg, et également ils se sont exprimés au travers d'affiches qui sont actuellement en exposition à l'Office de tourisme, et ces affiches ont été créées lors d'ateliers créatifs avec Madame Etta Webster.
Ces collégiens, ils se sont rencontrés ou c'est resté par collège ?
Ils se sont rencontrés, entre autres, lors du forum inaugural, si vous voulez, qui a lancé le début de l'opération à la salle des fêtes de la ville d'Épernay. Mais comme vous le dites, pour l'essentiel, ils ont travaillé donc avec leurs enseignants, avec les services du CAST, les services de l'agglomération d'Épernay, les différents intervenants que je viens de citer en termes de créativité, d'art-thérapie, voilà, et d'affiches.
Alors, on peut dire, docteur, que cette exposition, elle est visible à l'Office du tourisme d'Épernay et Pays de Champagne, tous les jours jusqu'au 2 décembre, 10h, 13h et 14h, 17h.
Je précise quand même, effectivement, que les sujets sont assez transversaux, si vous voulez quand même. J'ai cité les addictions aux produits, les faux CBD, le protoxyde d'azote, le cannabis, tabac, alcool, les écrans et également les réseaux sociaux, mais également tout ce qui touche au cyberharcèlement, à la pornographie. Voire même, nous avons effleuré et sensibilisé ces jeunes à la prostitution des mineurs. Voilà, action très transversale, si vous voulez, qui a été restituée par les travaux des élèves en ce qui concerne les masques et les affiches. Et on peut, et c'est assez impertinent de notre part, voir tout ça à l'Office de tourisme, comme vous venez de le souligner. Office de tourisme qui fait, cher monsieur, la promotion du champagne. Mais si on veut apprécier le champagne, il faut en faire un usage modéré. Et là, on peut dire que la boucle est quelque peu bouclée.
Gilles Dulion, merci. Je rappelle que vous êtes le président du CISPD, de l'agglomération d'Épernay.
Au revoir.
Des propos recueillis par Gérald Gaillet de la rédaction de RCF Cœur de Champagne. L'exposition Juin sans Juin est visible à l'Office de tourisme Épernay en Champagne tous les jours jusqu'à samedi le 2 décembre de 10h à 13h, de 14h à 17h. C'est avenue de Champagne à Épernay.
Le 18-19 sur RCF.
Et allez, deux invités qui nous rejoignent en studio, Pierre Possémé, délégué régional de la Fondation du Patrimoine, et Bernard Deloriston, chargé de mission de cette même fondation. C'est avec Jean-Pierre.
Pierre Possémé, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Bernard Deloriston, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Alors Pierre Possémé, chaque année, vers le mois de novembre et quelques semaines de Noël, on fait un peu le bilan de cette Fondation du Patrimoine. Rappelez-nous un peu sa mission, son rôle, et que s'est-il passé en 2023 très rapidement ?
Sa mission, ça porte bien son nom, puisqu'on s'occupe, on est au chevet, on peut dire, du patrimoine régional, toujours en concert avec la Direction régionale des affaires culturelles, bien sûr. Et notre rôle, c'est de chercher des dons pour améliorer le quotidien des mairies ou des associations ou même des propriétaires qui font des labels sur des châteaux ou autres importants, et de trouver des dons qui permettent de boucler, comme on dit, les dossiers financiers pour que les chantiers se réalisent. Donc, on peut dire que cette année est pour nous un excellent cru, puisque...
Par rapport aux autres années, il y a plus de dons?
Ah oui, puisque on va être à plus de 40% cette année par rapport à l'année dernière. Et si on regarde sur les 5 dernières années, on a monté de quasiment 55% en moyenne de dons sur la région Champagne-Ardenne. Donc c'est plutôt une très bonne...
52% dans les Ardennes, 58% je crois dans la Marne.
Oui.
Vous avez donné les chiffres au cours d'un point presse il y a quelques jours. Ça vous rassure quand même, parce que on dit toujours que les personnes donnent moins aujourd'hui parce que la conjoncture n'est pas si simple. Mais vous, vous prouvez le contraire, au fond.
C'est d'autant plus rassurant, c'est que nous avons vraiment un élan de générosité dans notre région, que ce soit des particuliers et même maintenant des entreprises qui viennent facilement vers nous, chose qu'il n'y avait pas il y a 10 ans, quoi. Hein. Donc, on peut dire que c'est tout à fait sympathique. Et d'ailleurs, ça nous place dans les 3 premières régions françaises quand on sait le petit poids économique que représente la Champagne-Ardenne au niveau national. Voilà.
Alors, il y a des mécènes qui vous aident. Et puis, en fonction des bâtiments que vous allez restaurer, se crée autour d'eux une vraie dynamique, autour du maire, des conseils municipaux, de tous les personnes, des habitants, des paroisses, des communes. Et il y a une mobilisation. Vous sentez cette mobilisation?
Il y a une mobilisation, déjà, je crois, par... j'ai autour de moi 2 chargés de mission qui remplissent tout à fait bien leur rôle. Et puis j'ai la chance aussi d'avoir une 30aine de bénévoles autour de moi. Parce que Pierre Possemé tout seul, il a beau essayer de faire du boulot. Mais enfin bon, on fait pas grand chose si on est tout seul. Mais ensemble, on fait beaucoup de choses. Et on peut dire que aujourd'hui nous sommes connus. Et puis on a une chance inouïe dans cette région. Le monde médiatique, vous nous aidez énormément. C'est-à-dire que vous parlez de nous et quand on parle de nous, on avance.
Bernard Deloriston, si on regarde en 2023 les réhabilitations que vous avez faites avec la Fondation, est-ce qu'on peut retenir 2-3 points forts qui ont marqué cette année 2023?
Oui, Jean-Pierre, il y a quelques chantiers vraiment emblématiques maintenant qui ont vraiment fait l'objet en plus d'une belle communication. Là, j'en ai 2 notamment dans les Ardennes qui me viennent à l'esprit. Il y a l'église d'Asfel qu'on a inaugurée la veille des Journées du Patrimoine, très très belle inauguration avec une 100aine de personnes présentes, et l'abbaye de Châtel-Chéry aussi au mois de mars, en présence là aussi d'une 50aine à peu près de personnes, après des gros travaux menés par les propriétaires.
Oui, mais réhabiliter, Pierre Possemé, on va faire très court, le temps passe vite, mais réhabiliter un monument pour que ce soit un bâtiment qui reste tout seul, ça vous plaît qu'à moitié. Vous aimez bien restaurer des bâtiments qui ont une vie, qui transmettent pour l'avenir et le futur.
Toute restauration, réhabilitation de bâtiments doit s'accompagner d'un bilan économique. Et dépenser pour dépenser, ça n'a pas d'intérêt. Il faut qu'un bâtiment y serve. Que ce soit même une église. Une église a le droit, bien sûr, et c'est normal, de répondre à l'Eucharistie, de répondre donc au niveau de la mission pour laquelle elle a été faite. Mais on peut aussi organiser des concerts, on peut organiser des réunions sympathiques dedans.
Et justement, Bernard Deloriston, à Châtel-Chéry, ceux qui ont été primés, ce sont des personnes qui vraiment investissent pour qu'il y ait une ferme, pour qu'il y ait une ouverture aux autres, pour qu'il y ait des visites. C'est un bâtiment qui reprend vie d'une certaine façon.
Et exactement, et c'est là en fait qu'on se rend compte qu'ils ont pas inventé, que les propriétaires n'ont pas forcément inventé grand chose, ils ne font que reproduire ce que les cisterciens faisaient déjà au Moyen-Âge, qu'une abbaye c'était à la fois un bâtiment religieux mais aussi un outil économique au service du territoire.
Mais ce sont des passionnés, parce qu'il faut être passionné, un peu comme dans le bâtiment et le bâtiment associé, Pierre Possemé. Il faut des passionnés pour faire ça.
Alors, il faut des passionnés, mais il faut surtout une vraie volonté d'aller jusqu'au bout. Et nous, on le voit dans tous les dossiers que nous accompagnons. Les dossiers qui marchent le mieux, ce sont ceux où les maires, les présidents d'associations sont volontaires et sont prêts à aller jusqu'au bout pour mener à bien leur projet.
Et en 2024, est-ce que vous avez 2-3 objectifs sur les Ardennes et Reims qui vous tiennent particulièrement à cœur? Ça se fait en ce moment, donc ça ne se définit peut-être pas tout de suite.
Non, ça se fait effectivement en ce moment. Après, on sait que les projets vont et viennent et on est toujours en recherche de nouveaux projets à venir. Et là, je sais que nous, un des très gros dossiers qui va nous occuper dans les mois et années à venir, par exemple dans les Ardennes, c'est la restauration de l'ancienne maison de Jean Mermoz à Roquigny, qui est un projet fondamental pour le territoire.
Et ça fait venir du monde. On disait qu'un euro investi dans la fondation, ça rapporte sur le plan économique pas mal d'argent.
21 euros, c'est-à-dire qu'un retour économique d'un euro donné en don à la fondation, c'est 21 euros de retour économique, que ce soit direct ou indirect. Donc ça, c'est important. Et dans la Marne, il y a un dossier, parce qu'on n'a pas beaucoup travaillé jusqu'ici, mais c'est FIM, avec les remparts et les choguettes de film. C'est vraiment un beau dossier parce que c'est une ouverture vers le côté Picardie, mais c'est un des derniers, une dernière petite ville avant d'arriver en Picardie. Et c'est bien qu'on travaille avec film actuellement.
La presse quotidienne régionale, l'Union, l'Ardennais, l'Est-Éclair, se mobilisent puisqu'ils ont lancé même un concours. La date va arriver à terme bientôt. De quoi s'agit-il, Pierre Possémé?
Eh ben, c'est les gens votent là toute cette semaine jusqu'au 4 décembre, je crois, hein, c'est ça, jusqu'au 4 décembre. Et ben, le dossier qui sera retenu, donc il y a à chaque fois 7 dossiers dans la Marne, 7 dossiers dans les Ardennes, 7 dossiers dans l'Aube, et les gens peuvent aller voter. Voilà, il faut y aller, il faut soutenir les dossiers, et on leur remettra, nous, le dossier qui sera élu, 2500 euros, qui les aidera pour compléter leur budget. Voilà, donc c'est quand même, il y a un atout derrière, c'est sur les fonds propres de notre fondation régionale, que nous mettrons 2500 euros sur chaque dossier sorti à l'issue du vote et les prix seront remis avant la fin de l'année. Merci à l'Union, merci à l'entreprise de bâtiments associés qui mécène l'opération et la Fondation du patrimoine. On peut dire trois partenaires efficaces pour, parce qu'il faut toujours trouver des partenaires pour financer des opérations comme ça, voilà.
Eh bien voilà, les partenaires sont trouvés, une très belle opération, vous avez eu toutes les précisions, Pierre Possémé, Bernard Deloriston, la Fondation du patrimoine est très motivée, on vous invite à la soutenir, 18h51.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Et nous, on part dans les méandres du monde financier où une lueur d'espoir brille depuis 1983, créée par le CCFD Terre Solidaire. La CIDI, Solidarité Internationale pour le Développement et l'Investissement, a pour but d'améliorer les conditions de vie des populations vulnérables dans les pays du Sud et de l'Est par la création et le renforcement d'activités économiques individuelles ou collectives. Elle contribue au financement et à l'accompagnement d'organisations locales. Pour nous en parler, Anne-Marie Sonnet, correspondante locale à la CIDI, est avec Laure de la Julie.
Bonjour à vous.
Bonjour.
Et alors, je commence tout simplement par vous demander, qu'est-ce que ça veut dire finance solidaire?
Oui, eh bien écoutez, finance solidaire, alors nous sommes les créateurs avec le Crédit Coopératif de la finance solidaire en France. Avant, il n'y en avait pas, ou du moins s'il y en avait, c'était des bricoles mal ajustées au niveau juridique. Et c'est depuis 1983 qu'avec le Crédit Coopératif, nous avons mis en place quelque chose qui était juridiquement, qui tenait la route. Voilà, donc c'est la date qu'on tient pour la création de la finance solidaire en France, en sachant que c'est le CCFD, Terre Solidaire et la CIDI qui ont donc créé les premiers produits financiers.
D'accord, alors c'est un système avec des actionnaires, bénéficiaires.
Alors il y a plusieurs choses. Il y a d'abord ce qu'on appelle l'épargne solidaire. Alors ce sont des produits qui sont achetés dans diverses banques, mais surtout au Crédit Coopératif, qui les vend. Les autres les vendent si on leur les demande, ce qui est pas très dynamique. Et alors on partage les intérêts de ces produits-là, et c'est ce partage d'intérêts qui va nous permettre d'accompagner les personnes pour lesquelles la CIDI va faire un investissement dans le capital chez eux.
D'accord. Et donc c'est à chaque fois une entreprise.
Après, donc il y a la CIDI qui elle a été créée, qui est une société anonyme, parce qu'on ne peut pas faire autrement en France que d'avoir une société anonyme pour faire de la finance solidaire. Donc là, toujours la référence juridique. Et la CIDI, c'est elle qui prête le capital à des entreprises dans 35 pays du monde et auprès de 83 partenaires cette année.
D'accord. Alors quand on est prêt à investir, on sait aussi qu'on va pas forcément avoir des produits d'une spéculation très très profitable.
Ah ben nous, la spéculation à la CIDI, c'est zéro. Alors Non mais je le dis de manière un peu plaisante, mais je veux dire que c'est ce qui nous permet d'avoir une attitude vis-à-vis des gens à qui nous avons prêté, qui est une attitude souple. Ouais. Hein. S'il y a un problème, nous prêtons à l'heure actuelle en Palestine et à Gaza.
D'accord.
Est-ce qu'on va leur demander de rembourser? Non.
On va leur demander d'attendre.
Pour l'instant.
Oui, on va attendre.
On verra dans quelques années comment ça va se passer. Alors ça, ce zéro, c'est ce qui nous permet de faire ça.
Ouais. D'accord.
Vous comprenez? Si on devait servir, comme la moyenne de France, 10 ou 15% d'intérêt, ça ne serait pas possible.
Vous avez donc, à l'honneur de ces 40 ans, plusieurs partenaires qui viennent témoigner de la vivacité, de l'intérêt de la CIDI.
Alors, ça a été le cas à Paris, puisque Bon, je vais le dire. On a reçu le monde entier, comme d'habitude, ouais. Asiatique, américain et africain. À Chalon, c'est beaucoup plus modeste, puisque nous avons reçu un partenaire, qui avait d'ailleurs participé à Paris, et qui était donc César Paz de la coopérative Norandino au Pérou.
Bon, alors qu'est-ce qu'il a raconté alors, de son expérience?
Déjà, ce qui a été particulièrement, je dirais, intéressant, c'est que d'abord, il nous a expliqué que ça ne s'était pas fait en 3 minutes, hein, que depuis 30 ans, ils travaillaient avec les gens de la communauté villageoise. Ils ont commencé, ils étaient 200. Ensuite, eh ben, ils ont grossi. Maintenant, ils sont 7000 coopérateurs.
D'accord.
Vous voyez, c'est ça qui est important. C'est que dans le temps, ils ont grossi. Et non seulement ils ont grossi en nombre de coopérateurs, mais ils ont grossi en qualité.
Qu'est-ce qu'ils produisent?
Alors, ils produisent, dans un premier temps, ils produisaient du café. Quand ils ont eu bien cerné le problème du café, ils ont attaqué celui du cacao. Non, parce que le problème, souvent, ils ont des produits de base d'une très grande qualité, parce qu'ils le font en agroforesterie. Donc, il n'y a pas de pression environnementale. C'est des produits qui, en plus, quand on le fait avec en présence d'autres espèces autour, qui prennent un goût très particulier. Un café ou un cacao, c'est vrai pour ça aussi, d'une qualité très particulière, voilà, qui est d'ailleurs courue un petit peu partout, hein, parce que c'est de la qualité. Mais le problème pour eux, c'était de maîtriser le lavage, la fermentation. Fallait qu'ils...
Surtout qu'ils voulaient faire localement.
Ah ben, ils veulent, oui, c'est la valeur ajoutée.
Et oui, c'est ça.
Et c'est ce qu'ils recherchaient, parce que c'est la valeur ajoutée qui leur permet de progresser. Et notamment, qui leur a permis aussi, au niveau éducatif, au niveau local, d'associer non seulement les coopérateurs, qui sont souvent des hommes, mais aussi les femmes et les enfants. D'accord. Donc, vous voyez, c'est vraiment un projet. C'est pour ça que je disais villageois. Mmh. Parce que c'est une coopérative, mais qui est ancrée dans le pays. Et quand je dis dans le pays, dans leur région.
Oui.
Puisqu'il est une région de montagne.
Oui.
Et donc, qui est assez isolée. Et le gouvernement ne s'intéressait pas trop à eux, pour tout dire.
D'accord.
Et c'est ce qui leur a permis.
Et alors, par exemple, dans le village, ils arrivent à faire.
Ah, donc, pas dans le village, dans la région.
Dans la région. Oui. Ils arrivent à faire. Bon, la plantation, la récolte, oui. Lavage, séchage. C'est,
voilà.
Et alors, est-ce que c'est juste, c'est prêt presque à l'exportation après?
Ah ben après, c'est exporté.
Directement.
Alors voilà, et ce sont des produits d'exportation.
D'accord.
Donc, ils ont pu décoller lorsqu'ils ont maîtrisé le commerce équitable. Et c'est grâce à Éthicable, et vous le connaissez, puisque Éthicable est la marque des produits solidaires. Et du commerce équitable que vous trouvez dans les grandes surfaces.
D'accord.
Vous trouvez du café, vous trouvez du chocolat. L'autre produit, c'est de la canne à sucre, mais elle n'est pas valorisée de cette manière-là. Hein. Voilà. Donc, c'est à partir de ça. Et le commerce équitable paye un juste prix. Oui. Et c'est ce qui leur a permis de progresser.
D'accord.
Parce que sinon... Alors, d'ailleurs, ça explique l'intervention de la CIDI. Avant que la CIDI n'intervienne, il n'y a pas si longtemps que ça qu'elle intervient d'ailleurs... Et les producteurs avaient donc vendé à la coopérative, mais pas tout. Pourquoi? Parce que simplement, la coopérative ne pouvait les payer que quand elle-même avait reçu le paiement des produits exportés. L'exportateur ne payait que lorsqu'il avait reçu le produit.
Oui.
Mais s'entraîner, c'était 4 ou 5 semaines, quelquefois voire 2 mois ou 3 mois, avant qu'ils ne soient payés.
Donc on ne pouvait pas payer les salaires.
Ils ne pouvaient pas tenir le coup. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils continuaient de vendre une partie de leur récolte, alors comme ils l'appellent entre guillemets aux coyotes, c'est-à-dire à ceux qui leur payaient un prix très bas et qui ne faisaient pas de distinction entre le bon café et le mauvais café, voilà, mais qui leur permettaient pendant 3-4 mois d'avoir de l'argent pour vivre.
D'accord. Parce
que c'était bien pour vivre, hein, c'était pas pour, ouais. pour s'amuser. Hein.
Donc voilà. La CIDI a permis de régulariser ça.
La CIDI, par le prêt qu'elle fait à la coopérative, qui s'appelle Norandino, permet à cette coopérative de les payer dès que la récolte arrive dans la coopérative.
D'accord.
C'est-à-dire tout de suite.
Ouais.
Et ça a été simple. Pratiquement d'une année sur l'autre, les producteurs ont livré la totalité de leur récolte.
Bah oui.
Bah, c'était normal, puisque le prix était meilleur.
Bien
et que,
sûr.
Voilà. Mais avant, ils ne pouvaient pas. D'où l'intérêt de la CIDI.
Merci beaucoup, Anne-Marie, de toutes, voilà. À la fois des témoignages et de tous ces principes vertueux de la banque.
Mais c'est moi qui vous remercie.
Anne-Marie Sonnet et Laure de la Judy qui étaient depuis les studios de RCF Cœur de Champagne comme toute l'équipe du 18-19 régional qui sera jeudi pour une émission spéciale avec Monseigneur François Touvet avant son départ pour le diocèse de Fréjus-Toulon dont il a été récemment nommé coadjuteur. 18h59, on vous souhaite une bonne soirée. À demain, 18h10.